Voilà, bonjour. Il me semble avoir remarqué parmi nous un certain nombre de personnes qui parlent, ou dont la langue maternelle est le portugais, est-ce que c'est vrai? Manifestez-vous voir les personnes dont la langue maternelle est le portugais. Ouah, sur la galerie, oui, oui, Carla, c'est... Ouais, d'accord, mais... D'accord. Ben, bienvenue. Et bienvenue. J'aimerais partager avec vous encore ce dimanche, le dernier dimanche d'octobre, deux éléments qui m'ont paru très riches, en tout cas pour moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à approfondir ces dimensions concernant la vie de Jésus, appelé le fils de David. Et ce matin, à partir du roi David, j'aimerais apporter quelques réflexions plutôt théologiques. La dernière rencontre sera plutôt de la théologie pastorale, mais pour bien bénéficier et profiter de la théologie pastorale, ce sera bien d'avoir cette partie théologique. J'essaierai quand même de vous insuffler, ci et là, quelques éléments qui vous permettront, j'espère, de ne pas ressortir sec de ce lieu de culte tout à l'heure. David, un homme dont on a parcouru la vie brièvement ces dernières années, dont il est dit dans 1 Samuel 13, 14 que l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. Vous savez que David, ça signifie bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que nous avons pris conscience de cela? Et cet homme selon le cœur de Dieu, bien-aimé de Dieu, a été au bénéfice d'un certain nombre de promesses durant sa vie. Et cette formulation des promesses, pour moi, elle se résume bien dans ce texte du psaume 132. Il y a le même texte qui est repris à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Mais l'Éternel a fait serment à David. Il s'est engagé envers David. En vérité, il n'y reviendra pas. Nous, des fois, comme humains, on s'engage un peu facilement, puis par la suite, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à tenir parole, malgré toute notre bonne volonté, parce qu'on est des humains faillibles. Mais Dieu ne l'est pas. Et cette promesse, c'est un de tes descendants, un de tes fils, que je mettrai sur ton trône. Facile à dire, hein? Mais comment est-ce que cela va se réaliser? Cette promesse fait référence à un événement, une circonstance, dans 2 Samuel 7, où le prophète Nathan était venu trouver David qui avait souhaité construire un temple pour l'Éternel. Mais c'est Salomon qui, en fait, pourra accomplir cela. Mais quand même, David avait reçu cette promesse à ce moment-là. Par la bouche de Nathan, l'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison ou une dynastie. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône pour toujours affermi. Ce sont des extraits de 2 Samuel 7, 11 à 16. Je le signale pour ceux qui écoutent le message qui ne sont pas là ce matin. Donc David avait reçu cette promesse, je ne sais pas comment il l'a perçue, ce qu'il imaginait, comment Dieu pourrait l'accomplir. Promesse indéfectible envers toute sa dynastie. Et dans le monde juif, à l'occasion de chaque grande fête juive, ce peuple prie pour que cette parole puisse se réaliser. L'espérance, c'est qu'un nouveau David vienne, qui ne soit pas seulement un roi, ce serait déjà formidable, mais l'envoyé même de Dieu, de l'Éternel, le grand Dieu d'Israël. Un roi idéal descendant de David, c'est-à-dire le Messie promis. restaurateur de la grandeur d'Israël et qui délivrera son peuple et s'assiera pour toujours à jamais sur le trône de David, apportant un règne de paix et de justice. Voilà l'espérance messianique juive encore aujourd'hui. Alors, assez rapidement, les Juifs ont espéré qu'elle se réaliserait. Elle ne s'est pas vraiment réalisée. Une question va se poser, même pour nous chrétiens, comment se fait-il que nous pouvons reconnaître en Jésus ce fils de David? En fait, David aura des fils. Vous savez ça, que David a eu des fils? Est-ce que vous savez qu'il a eu beaucoup de fils? Vous ne savez pas? Bon. 2 Samuel 3, il naquit à David des fils à Hébron. Et là, il y a juste la mention du premier fils qui naît de chacune de ses femmes. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 à ce moment-là seulement. Amnon, voilà, il y a le nom des femmes aussi, 2 Samuel 3, 2, 5, Kileab, Absalom, etc., Adonija. Voilà. Et puis, il n'est pas seulement resté roi de Juda à Hébron. Par la suite, quand il était à Jérusalem, qu'il a régné sur tout Israël, il est dit dans 2 Samuel 5, 14 à 16, que David a pris encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu de Hébron, et il eut naquit encore des fils et des filles. Et puis il y a toute une liste. Dans la liste, il y a Salomon, qui lui-même a eu 300 concubines et 700 femmes, nous dit la Bible. Et il y a cette liste de tous les fils de David, sans compter les fils des concubines. Alors, comment l'identifier? Si vous avez une excellente vue, je vous passe juste un extrait de tentatives de généalogie des descendants de David avec des centaines et des centaines de noms. Alors, comment cette promesse peut-elle se réaliser? Comment savoir qui est le bon? On pourrait avoir beaucoup de doutes, hein? Alors, évidemment, il y a toute une partie de la Bible là qui s'appelle des prophéties. Tout comme Nathan a pu donner cette parole prophétique de la part de Dieu à David, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue, à un moment donné, de ce Messie, en donnant chacun pour eux-mêmes un élément du portrait de ce Messie. Et alors, pour que se réalisent toutes ces paroles, il fallait vraiment une action extraordinaire de la part de Dieu. Les prophéties, il y en a tellement, je ne peux pas toutes les, bien sûr, les communiquer, mais je les ai réparties en 3 catégories distinctes, un petit peu artificiellement, 3 genres. Tout d'abord, concernant le fait que le Messie devait descendre de la lignée familiale du roi David. Ça, c'était la marque de fabrique, l'ADN. Et c'est pourquoi dans la Bible, au début de l'évangile de Matthieu et dans Luc, un petit peu plus loin, il y a 2 généalogies de Jésus. Elles sont différentes, l'une remonte jusqu'à Abraham, l'autre jusqu'à Adam et fils de Dieu. Mais c'est pour bien démontrer que légalement et physiquement, Jésus va correspondre aux exigences qui étaient données à Israël à cet égard. Joseph est le père adoptif et non biologique. Ça, c'est une remarque qu'on peut faire quand même. Et puis, Jésus, bien sûr, a été conçu par le Saint-Esprit. Pour les Juifs, c'était excessivement important de tenir à jour ces registres généalogiques. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment du retour de l'exil, dans le livre d'Esdras, plusieurs prêtres, grands prêtres, qui avaient voulu venir servir Dieu dans le temple qui allait être construit, n'ont pas pu être accueillis dans ce contexte parce qu'ils n'arrivaient pas à prouver leur ascendance. Donc c'était quelque chose de très très sérieux. Jean-Christophe Huet, dimanche dernier, nous disait qu'en Afrique, hein, si on devait connaître les 7 ascendants directs si on voulait être quelqu'un d'admis dans la société, hein, là c'était beaucoup plus. Et bien sûr, ce qu'il faudra souligner, c'est cette action souveraine de Dieu, incroyable, tout au long des siècles, pour permettre que, véritablement, ces choses puissent se produire. Le peuple a été donc en exil à Babylone, à un moment donné, beaucoup de juifs étaient morts. Il y avait quelques rescapés de la tribu de Juda, essentiellement. Et un reste seulement est revenu. Il y avait là comme une interruption de la dynastie, de la royauté. Il n'y a plus eu de roi pendant 5 siècles et demi en Israël. Au point qu'on se disait, mais est-ce que vraiment un jour il y aura de nouveau un roi? Est-ce que ce sera possible? Eh bien, Dieu a honoré sa promesse. Et c'est sous le prince de Juda, Zorobabel, que le peuple est revenu d'exil. Et en tous les cas, on peut dire que Dieu a préservé d'une manière miraculeuse cette descendance de Juda pour aboutir à la venue de Jésus à un moment donné. Dieu est celui qui accomplit ses promesses. Alors, on sait qu'il y a encore d'autant plus de promesses concernant le retour de Jésus-Christ un jour, concernant sa parousie, comme on dit, hein, où la plénitude du royaume viendra. Mais c'est bon de nous enraciner comme ça dans les Écritures. Vous savez qu'on est une civilisation, je crois, qui a perdu le sens de ses racines. On s'est coupé de plus en plus des racines judéo-chrétiennes. Et ce faisant, on s'appauvrit et on s'affaiblit. Et de se plonger comme ça dans nos racines et de voir avec quelle grâce Dieu poursuit dans la continuité de l'histoire jusqu'à un moment donné établir son royaume dans la plénitude, je crois que ça nous donne de l'assurance. Ça nous affermit. Ça nous donne de l'espérance. Et c'est bien pour cela que je m'arrête longuement sur ce sujet. Un deuxième genre de prophétie concernait le lieu de sa naissance. Déjà, le prophète Michée avait reçu aussi cette précision. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Ça, c'est un texte magnifique, Michée 5, 1. Et puis, j'ai mis comme indication Matthieu 2 et Jean 7. Mais dans Matthieu 2, vous savez, ce sont les mages, ces astronomes qui viennent de Mésopotamie pour apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe au moment de la naissance de Jésus-Christ, alors qu'il est dans une grotte à Bethléem, dans la pauvreté absolue. Ces gens-là sont conduits par une étoile, par un astre brillant jusqu'à Jérusalem d'abord, et quand ils demandent à Hérode où doit naître le roi des Juifs, eh bien, Hérode va être complètement désemparé, il va s'enquérir auprès des prêtres pour le savoir, et ils vont citer précisément Michée 5, parce que pour eux c'était clair, le Messie, le fils de David, devrait naître à Bethléem. Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais je vais dans le troisième genre de prophétie. C'est surtout celui-là où j'aimerais aboutir finalement, surtout la prochaine fois. C'est toute la description par les prophètes de l'activité messianique de Jésus qui seront autant de signes d'attestation sur sa vie. J'ai mis juste un texte aujourd'hui, c'est Ésaïe 28, 19, mais je vous assure, il y en a beaucoup, beaucoup. Je peux vous fournir la liste si vous voulez. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel, et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse. Jésus va venir dans sa double identité, pleinement Dieu, pleinement homme. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Et on le verra, on le découvrira plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Tout d'un coup, des hommes juifs ou d'arrière-plan païens, voyant Jésus, pour toutes sortes de raisons, vont crier à lui, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus va être très sensible à ce genre d'interpellation, comme il l'est, je crois, encore aujourd'hui par rapport à tant de gens qui sont dans la souffrance, dans la misère, qui sont en crise d'identité profonde et qui crient vers lui. Ceux qui ont lu le dernier Christianisme aujourd'hui, il y avait un témoignage magnifique d'une femme en France qui est sortie de nulle part avec des parents athées, qui n'avait aucun contact avec des chrétiens, et comment Dieu s'est révélé à elle, c'est juste incroyable. Là aussi, je peux vous fournir la photocopie si jamais, mais achetez le numéro, abonnez-vous si jamais. Un autre chapitre à ce parcours, c'est quelque chose que j'ai découvert personnellement, peut-être de manière un petit peu plus pointue. J'en avais déjà parlé un petit peu, c'est l'onction royale. L'onction royale qui va venir sur Jésus, qui va le distinguer des autres. En fait, j'ai remarqué dans ce parcours que David avait reçu une triple onction. En tout cas, ce qui est marqué sur le papier, dans la Bible, ce qui a été révélé dans la Bible. Lorsque Samuel est venu vers lui à Bethléem avec sa corne d'huile, il a oint au milieu de ses frères. Et il est dit que l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Et au moment où David va être à Hébron comme roi, dans 2 Samuel 2,4, il est dit que les hommes de Juda sont venus là et ils lui ont donné l'onction comme roi sur toute la maison de Juda. Donc ils l'ont béni, ils ont prié pour lui. C'est un signe distinctif des ministères de l'Ancien Testament comme roi, prophète et grand sacrificateur, c'était de recevoir l'onction. Et puis enfin, par la suite, quand David a régné sur tout Israël, dans 2 Samuel 5, 3, il est dit que tous les anciens d'Israël sont venus auprès de lui, auprès du roi à Hébron, et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Et ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël. Donc ça faisait partie de l'identité de ce Messie qui allait venir, de ce Jésus, fils de David. Et là, par curiosité, j'ai été voir un petit peu dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai que, sur Jésus-Christ aussi, il y a une triple onction. Et Christ en grec, c'est Christos, hein, c'est ce qui signifie Messie en hébreu. Avec ce début de ministère de Jésus, marqué par cette visitation, cette voix qui se fait entendre du ciel, au moins à Jean-Baptiste, on ne sait pas si d'autres l'ont entendu, mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Je crois que David n'avait pas entendu une parole qui allait jusqu'à ce point-là quand même. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et tout comme David a été béni au début de son ministère par Samuel, Jésus va l'être par le Père lui-même. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis, ensuite, vous vous souvenez quand Jésus est dans la synagogue à Nazareth, on l'invite, comme c'est la coutume dans la synagogue, à lire le rouleau de la parole. Et on était dans les prophètes et Jésus déroule le rouleau et il arrive sur Luc 4, au verset 16, si on lit un extrait 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Ça fait l'effet d'une bombe dans cette synagogue à Nazareth, et on comprend. Mais voilà, l'onction est précisée. Pourquoi Jésus a reçu cette onction? Pour être au service du Père auprès des hommes. Et dans Jean 3, Jean-Baptiste, parlant de Jésus, dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Dieu a accordé à Jésus une plénitude d'Esprit. Quelque chose d'absolument incroyable. Une plénitude illimitée. Quelque chose que n'avaient jamais vécu les hommes de l'Ancien Testament à ce point-là. Une plénitude permanente. J'ose pas trop dire l'image d'Obélix parce que je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'être un peu trop léger, mais ceux qui ont lu la bande dessinée, Jésus était conçu par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit dès sa naissance, bien sûr, et avant sa naissance. Jean-Baptiste aussi, à quelque part. Mais Jésus, c'était quelque chose d'encore plus fort. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait trois offices donc, qui recevaient le Saint-Esprit par une onction. C'était le roi, le prophète et le sacrificateur. Et Jésus va cumuler en lui ces trois fonctions. C'est le seul qui a pu faire cela vraiment. Et il va être le souverain sacrificateur de tous les hommes, pas seulement du peuple juif. Il est venu pour cela. Il a payé le prix pour cela. Alors, je vais aller dans la conclusion de cette première partie. Avec un texte un petit peu curieux qu'on va découvrir, qui semble démontrer que Jésus ne veut pas forcément être appelé fils de David. Il va en réalité essayer de titiller les pharisiens, les chefs religieux, pour essayer de les faire aller un petit peu plus loin. Et dans Matthieu 22, il est dit que comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question : que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ? Ils lui répondirent : de David. Ah bon, c'est bien ça. Donc mécaniquement, ils le savaient. Mais il manquait une dimension de leur compréhension. Parce qu'en fait, il imitait ce fils de David à un homme, peut-être un prophète, peut-être un homme particulier, mais que le fils de Dieu vienne parmi eux, ça c'était juste incroyable. Alors Jésus va utiliser l'Écriture pour les provoquer un petit peu, mais de la bonne manière, pour qu'ils aillent plus loin dans leur réflexion. Et j'espère que si parmi nous, il y a des personnes qui ne confessent pas encore la messianité de Jésus, qui n'ont pas réalisé que Jésus est le Fils de Dieu, ils puissent aussi se laisser interpeller par ce parcours dans l'Écriture. Parce que c'est juste un exercice d'une étude biblique intellectuelle, ça va pas porter du fruit dans les cœurs. Mais si c'est par le Saint-Esprit, alors oui. Alors Jésus leur dit, mais comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, et là Jésus va citer un extrait du psaume 110, qui est un psaume messianique, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Et Jésus sans leur dire, mais il y a comme une aberration. Hein ? Si donc David l'appelle Seigneur, mais comment est-il son fils ? C'est pas possible. Nul n'a pu répondre à cela. C'est vrai qu'on ne considère pas généralement ses descendants sous cet angle-là. Donc c'était un mystère que l'Écriture va lever, et les apôtres, dans le livre des Actes notamment, vont reprendre ce passage du psaume 110 pour montrer que Jésus, par sa résurrection, est celui qui donne cette touche qui était nécessaire et indispensable aux hommes pour confesser sa messianité. Le Christ est donc plus que le descendant de David, il est Dieu lui-même. Et le Père a donné non seulement lors du baptême de Jésus, mais aussi lors de la transfiguration, cette transformation de Jésus dans sa gloire déjà, une pré-gloire sur la montagne de la transfiguration, il a donné les deux fois cette même parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Jésus est le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans Romains 1, dira, « Cet évangile que je vous annonce, les amis, concerne son Fils, avec un F majuscule, né de la descendance de David selon la chair. Mais est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors je vous invite à prendre maintenant un moment de louange, d'adoration. J'invite l'équipe à nous rejoindre pour qu'on lève nos yeux, vraiment qu'on sorte peut-être de tout ce qui a pu nous encombrer dans la semaine, tout ce qui peut être lourd dans nos vies, qu'on lève les yeux, non pas pour fuir, mais pour nous ressourcer auprès de celui qui est le bon berger, qui dit que ses brebis entendent sa voix. Que nous puissions entendre sa voix à travers l'Écriture, par le Saint-Esprit, et nous tourner vers lui résolument. Amen.